Une seule offrande, divers sacrifices. 3. Les sacrifices pour le péché et le délit. Lévitique chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6 verset 17 à chapitre 7 verset 7. Lecture de la parole. Et l'Éternel parla à Moïse disant, parle aux fils d'Israël en disant, si quelqu'un a péché par erreur contre quelqu'un des commandements de l'Éternel, dans les choses qui ne doivent pas se faire, et a commis quelqu'une de ces choses, si c'est le sacrificateur oint qui a péché, selon quelque faute du peuple, alors il présentera à l'Éternel, pour son péché qu'il aura commis, un jeune taureau sans défaut, en sacrifice pour le péché. Mais il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, et il posera sa main sur la tête du taureau, et égorgera le taureau devant l'Éternel. Et le sacrificateur oint prendra du sang du taureau, et il l'apportera dans la tente d'assignation. Et le sacrificateur trempera son doigt dans le sang, et fera aspersion du sang 7 fois devant l'Éternel, par devant le voile du lieu saint. Et le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel de l'encens des drogues odoriférantes, qui est dans la tente d'assignation, devant l'Éternel. Et il versera tout le sang du taureau au pied de l'autel de l'Holocauste, qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Et toute la graisse du taureau du sacrifice pour le péché, il la lèvera. La graisse qui couvre l'intérieur, et toute la graisse qui est sur l'intérieur, et les deux rognons, et la graisse qui est dessus, qui est sur les reins, et le réseau qui est sur le foie, qu'on ôtera jusque sur les rognons, comme on les lève du bœuf du sacrifice de prospérité. Et le sacrificateur les fera fumer sur l'autel de l'Holocauste. Et la peau du taureau, et toute sa chair, avec sa tête, et ses jambes, et son intérieur, et sa fiente, tout le taureau, il l'emportera hors du camp, dans un lieu net, là où l'on verse les cendres, et il le brûlera sur du bois au feu. Il sera brûlé au lieu où l'on verse les cendres. Et si toute l'assemblée d'Israël a péché par erreur, et que la chose soit restée cachée aux yeux de la congrégation, et qu'ils aient fait à l'égard de l'un de tous les commandements de l'Éternel, ce qui ne doit pas se faire, et se soient rendus coupables, et que le péché qu'ils ont commis contre le commandement vienne à être connu, alors la congrégation présentera un jeune taureau en sacrifice pour le péché, et on l'amènera devant la tente d'assignation. Et les anciens de l'assemblée poseront leurs mains sur la tête du taureau, devant l'Éternel, et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Et le sacrificateur oint apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation, et le sacrificateur trempera son doigt dans ce sang, et en fera aspersion 7 fois devant l'Éternel, par devant le voile, et il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel, dans la tente d'assignation, et il versera tout le sang au pied de l'autel de l'Holocauste, qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Et il lèvera toute la graisse, et la fera fumer sur l'autel. Il fera du taureau comme il a fait du taureau pour le péché. Il fera ainsi de lui, et le sacrificateur fera propitiation pour eux, et il leur sera pardonné. Et on emportera le taureau hors du camp, et on le brûlera comme on a brûlé le premier taureau. C'est un sacrifice pour le péché, pour la congrégation. Si un chef a péché et a fait par erreur à l'égard de l'un de tous les commandements de l'Éternel, son Dieu, ce qui ne doit pas se faire, et s'est rendu coupable, si on lui a fait connaître son péché qu'il a commis, alors il amènera pour son offrande un bouc, un mâle sans défaut, et il posera sa main sur la tête du bouc, et il l'égorgera au lieu où l'on égorge l'Holocauste devant l'Éternel. C'est un sacrifice pour le péché. Et le sacrificateur prendra avec son doigt du sang du sacrifice pour le péché, et le mettra sur les cornes de l'autel de l'Holocauste, et il versera le sang au pied de l'autel de l'Holocauste, et il fera fumer toute la graisse sur l'autel, comme la graisse du sacrifice de prospérité. Et le sacrificateur fera propitiation pour lui, pour le purifier de son péché, et il lui sera pardonné. Et si quelqu'un du peuple du pays a péché par erreur, en faisant, à l'égard de l'un des commandements de l'Éternel, ce qui ne doit pas se faire, et s'est rendu coupable, si on lui a fait connaître son péché qu'il a commis, alors il amènera son offrande, une chèvre, une femelle sans défaut, pour son péché qu'il a commis, et il posera sa main sur la tête du sacrifice pour le péché, et égorgera le sacrifice pour le péché au lieu où l'on égorge l'Holocauste. Et le sacrificateur prendra du sang de la chèvre avec son doigt, et le mettra sur les cornes de l'autel de l'Holocauste, et il versera tout le sang au pied de l'autel, et il ôtera toute la graisse, comme la graisse a été ôtée de dessus le sacrifice de prospérité. Et le sacrificateur la fera fumer sur l'autel, en odeur agréable à l'Éternel. Et le sacrificateur fera propitiation pour lui, et il lui sera pardonné. Et s'il amène un agneau pour son offrande de sacrifice pour le péché, ce sera une femelle sans défaut qu'il amènera. Et il posera sa main sur la tête du sacrifice pour le péché, et l'égorgera en sacrifice pour le péché, au lieu où l'on égorge l'Holocauste. Et le sacrificateur prendra avec son doigt du sang du sacrifice pour le péché, et le mettra sur les cornes de l'autel de l'Holocauste, et il versera tout le sang au pied de l'autel. Et il ôtera toute la graisse, comme la graisse de l'agneau a été ôtée du sacrifice de prospérité. Et le sacrificateur la fera fumer sur l'autel, sur les sacrifices de l'Éternel faits par feu. Et le sacrificateur fera propitiation pour lui, pour son péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. Chapitre 5. Et si quelqu'un a péché en ce que, étant témoin et ayant entendu la voix d'adjuration, ayant vu ou su, il ne déclare pas la chose, alors il portera son iniquité. Ou si quelqu'un a touché une chose impure quelconque, soit le corps mort d'une bête sauvage impure, soit le corps mort d'une bête domestique impure, ou le corps mort d'un reptile impur, et que cela lui soit resté caché, alors il est impur et coupable. Ou s'il a touché l'impureté de l'homme, quelle que soit son impureté par laquelle il se rend impur, et que cela lui soit resté caché, quand il le sait, alors il est coupable. Ou si quelqu'un, parlant légèrement de ses lèvres, a juré de faire du mal ou du bien, selon tout ce que l'homme profère légèrement en jurant, et que cela lui soit resté caché, quand il le sait, alors il est coupable en l'un de ces points-là. Et il arrivera, s'il est coupable en l'un de ces points-là, qu'il confessera ce en quoi il aura péché, et il amènera à l'Éternel son sacrifice pour le délit, pour son péché qu'il a commis, une femelle du menu bétail, soit brebis, soit chèvre, en sacrifice pour le péché. Et le sacrificateur fera propitiation pour lui, pour le purifier de son péché. Et si ses moyens ne peuvent atteindre à un agneau, il apportera à l'Éternel, pour son délit qu'il a commis, deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un pour le sacrifice pour le péché, et l'autre pour l'Holocauste. Et il les apportera au sacrificateur. Et le sacrificateur présentera celui qui est pour le sacrifice pour le péché premièrement, et lui détachera la tête avec l'ongle près du cou. Mais il ne le divisera pas, et il fera aspersion du sang du sacrifice pour le péché sur la paroi de l'autel. Et le reste du sang, il l'éprendra au pied de l'autel, c'est un sacrifice pour le péché. Et du second, Il en fera un holocauste selon l'ordonnance, et le sacrificateur fera propitiation pour lui, pour le purifier de son péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. Et si ces moyens ne peuvent atteindre à deux tourterelles ou à deux jeunes pigeons, alors celui qui a péché apportera pour son offrande la dixième partie d'un épha de fleurs de farine en sacrifice pour le péché. Il ne mettra pas d'huile dessus, et il ne mettra pas d'encens dessus, car c'est un sacrifice pour le péché. Et il l'apportera au sacrificateur, et le sacrificateur en prendra une pleine poignée pour mémorial, et la fera fumer sur l'autel sur les sacrifices faits par feu à l'Éternel. C'est un sacrifice pour le péché. Et le sacrificateur fera propitiation pour lui pour son péché qu'il a commis en l'une de ces choses-là, et il lui sera pardonné, et le reste sera pour le sacrificateur comme l'offrande de gâteau. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Si quelqu'un a commis une infidélité et a péché par erreur dans les choses saintes de l'Éternel, il amènera son sacrifice pour le délit à l'Éternel, un bélier sans défaut, pris du menu bétail, selon ton estimation en sicle d'argent, selon le sicle du sanctuaire, en sacrifice pour le délit. Et ce en quoi il a péché en prenant de la chose sainte, il le restituera et y ajoutera par-dessus un cinquième, et le donnera au sacrificateur. Et le sacrificateur fera propitiation pour lui avec le bélier du sacrifice pour le délit, et il lui sera pardonné. Et si quelqu'un a péché et a fait à l'égard de l'un de tous les commandements de l'Éternel, ce qui ne doit pas se faire et ne l'a pas su, il sera coupable et portera son iniquité. Et il amènera au sacrificateur un bélier sans défaut, pris du menu bétail selon ton estimation, en sacrifice pour le délit. Et le sacrificateur fera propitiation pour lui, pour son erreur qu'il a commise sans le savoir, et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice pour le délit. Certainement il s'est rendu coupable envers l'Éternel. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Si quelqu'un a péché et a commis une infidélité envers l'Éternel, et a menti à son prochain pour une chose qu'on lui a confiée, ou qu'on a déposée entre ses mains, ou qu'il a volée, ou extorquée à son prochain, ou s'il a trouvé une chose perdue, et qu'il mente à ce sujet, et qu'il jure en mentant à l'égard de l'une de toutes les choses qu'un homme fait de manière à pécher en les faisant. Alors, s'il a péché, et qu'il soit coupable, il arrivera qu'il rendra l'objet qu'il a volé, ou la chose qu'il a extorquée, ou le dépôt qui lui a été confié, ou la chose perdue qu'il a trouvée, ou tout ce à l'égard de quoi il a juré en mentant, et il restituera le principal, et ajoutera un cinquième par-dessus. Il le donnera à celui à qui cela appartient, le jour de son sacrifice pour le délit. Et il amènera pour l'Éternel au sacrificateur son sacrifice pour le délit, un bélier sans défaut, pris du menu bétail selon ton estimation, en sacrifice pour le délit. Et le sacrificateur fera propitiation pour lui devant l'Éternel. Et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute qu'il ait faite, en laquelle il s'est rendu coupable. Chapitre 6, verset 17. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle à Aaron et à ses fils en disant, « C'est ici la loi du sacrifice pour le péché. Au lieu où l'holocauste sera égorgé, le sacrifice pour le péché sera égorgé devant l'Éternel. C'est une chose très sainte. » Le sacrificateur qui l'offre pour le péché le mangera. On le mangera dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. Quiconque en touchera la chair sera saint, et s'il en rejaillit du sang sur un vêtement, ce sur quoi le sang aura rejailli, tu le laveras dans un lieu saint, et le vase de terre dans lequel il a été cuit sera cassé, et s'il a été cuit dans un vase d'airain, il sera écuré et lavé dans l'eau. Tout mâle d'entre les sacrificateurs en mangera, c'est une chose très sainte. Nul sacrifice pour le péché, dont le sang sera porté dans la tente d'assignation pour faire propitiation dans le lieu saint, ne sera mangé. Il sera brûlé au feu. Chapitre 7. Et c'est ici la loi du sacrifice pour le délit. C'est une chose très sainte. Au lieu où l'on égorge l'holocauste, on égorgera le sacrifice pour le délit, et on fera aspersion de son sang sur l'autel tout autour, et on en présentera toute la graisse, la queue, et la graisse qui couvre l'intérieur, et les deux rognons, et la graisse qui est dessus, qui est sur les reins, et le réseau qui est sur le foie, qu'on ôtera jusque sur les rognons. Et le sacrificateur les fera fumer sur l'autel comme sacrifice par feu à l'Éternel. C'est un sacrifice pour le délit. Tout mâle d'entre les sacrificateurs en mangera. Il sera mangé dans un lieu saint. C'est une chose très sainte. Comme le sacrifice pour le péché, ainsi est le sacrifice pour le délit. Il y a une seule loi pour eux. Il appartient au sacrificateur qui a fait propitiation par lui.
Lecture de l'étude. Les sacrifices pour le péché et le délit n'étaient pas laissés à la discrétion de l'Israélite. C'étaient des offrandes obligatoires lorsqu'on avait manqué. Si quelqu'un a péché, alors il amènera son offrande. Ce n'est donc pas un adorateur qui vient à l'autel avec le désir d'être agréé ou pour rendre grâce et pour jouir de la communion avec Dieu et se nourrir des sacrifices. Mais c'est un coupable qui s'approche afin d'être pardonné. Il n'y a pas d'autre moyen que le sacrifice pour ôter le péché. Le psaume 49, verset 7 nous dit « Un homme ne pourra d'aucune manière racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon. » Ni nos larmes, ni nos actes de contrition, ni ceux de nos frères pour nous ne peuvent effacer le péché aux yeux de Dieu. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Mais maintenant, Christ a été manifesté une fois pour l'abolition du péché par son sacrifice. Hébreux chapitre 9. La confession, Lévitique chapitre 5, versets 5 à 6, et la restitution, chapitre 5, versets 16 et 23, ne suffisent pas. Elles étaient nécessaires dans les fautes prévues dans ce chapitre, mais nullement suffisantes. Ainsi, au verset 25, « En plus de la restitution au prochain avec un cinquième par-dessus, il fallait amener pour l'Éternel son sacrifice pour le délit. » La gravité du péché. Dieu ne laisse rien passer, il peut tout pardonner et tout purifier, mais il ne peut rien laisser passer. Le péché, caché aux yeux de celui qui le commet, n'est point caché à Dieu. Moïse déclare aux deux tribus ennemies qu'ils ne seraient pas allés à la conquête du pays de Canaan, « Sachez que votre péché vous trouvera ». Les frères de Joseph ont cru pendant 20 ans que leur père ignorerait leur crime. Mais Dieu l'a mise en lumière. Achan pensait avoir bien caché dans sa tente le manteau de Shinar et dessous l'argent et le lingot d'or, mais son péché l'a trouvé. Habacuc, chapitre 1, verset 13, déclare « Tu as les yeux trop purs pour voir le mal, et tu ne peux contempler l'oppression. Dieu n'ignore rien, et le mal, si bien caché qu'il puisse être pour nous, est toujours le mal pour lui. » Toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Hébreux 4, verset 13. Citation de J.N. Darby. Dieu ne juge pas du péché selon notre estimation propre, mais selon ce qui convient pour lui. Il faut, pour nous rendre heureux par sa présence, qu'il juge le mal, tout le mal selon cette présence, pour l'en exclure absolument. Faudrait-il qu'il rende d'autres personnes malheureuses, rende universellement impossible toute joie sainte, même dans sa présence, afin de laisser le mal se faire impunément? Non, cela est impossible, Dieu juge tout.
Fin de citation.
Dans son gouvernement, il peut laisser longtemps les choses impunies, mais dans nos relations avec lui, aucune communion n'est possible si le mal n'est pas jugé, confessé et pardonné. Péchés et délits. Lévitique 4 nous parle des péchés contre l'un des commandements de l'Éternel. Ce pouvait être le fait du sacrificateur oint, versets 2 à 12, ou de toute l'assemblée, versets 13 à 21, ou encore d'un chef, versets 22 à 26, ou de quelqu'un du peuple du pays, versets 27 à 35. Dans les deux premiers cas qui interrompaient le service de Dieu, il fallait apporter un taureau, et le sang de la victime était présenté dans le lieu saint. On en faisait aspersion 7 fois devant l'Éternel, par devant le voile. Le sang était aussi mis sur les cornes de l'autel d'or où l'on offrait l'encens, et tout le reste versé au pied de l'autel de l'Holocauste. L'animal tout entier était brûlé, non pas sur l'autel des reins, mais, après que l'on en eut prélevé la graisse qui seule fumait sur l'autel de l'Holocauste, la peau du taureau, toute sa chair, avec sa tête et ses jambes et son intérieur et sa fiente, était brûlée hors du camp. Jésus a souffert hors de la porte. Il n'y avait pas dans le camp, Jérusalem, de place pour lui, même comme sacrifice pour le péché. C'est pourquoi les croyants doivent sortir vers lui, hors du camp, hors de tout ce qui, religieusement, renie son sacrifice pour le péché. Lorsqu'un chef ou quelqu'un du peuple du pays avait péché, il fallait apporter un bouc ou une chèvre. Le sang était placé sur les cornes de l'autel de l'Holocauste et le sacrifice mangé par le sacrificateur. Nous avons dans le Lévitique 3 sortes de sacrifices pour le péché. Premièrement, le sacrifice du grand jour des propitiations, Lévitique 16, qui établissait le fondement des relations de Dieu avec son peuple, lui permettant d'exercer sa patience dans le support des péchés d'une année entière. Le sang était porté dans le lieu très saint, sur le propitiatoire. À cause de ce sacrifice, Dieu demeurait au milieu d'eux. C'est un type du sacrifice de Christ offert une fois pour toutes, mais qui conserve éternellement sa valeur devant Dieu. C'est aussi dans un sens une figure d'une âme amenée au Seigneur et qui saisit que Christ a ôté ses péchés. La nouvelle naissance ou la conversion ne s'opère pas 2 fois. Sans doute fera-t-on des progrès dans la connaissance de la valeur de l'œuvre de Christ, mais c'est une fois pour toutes que l'on devient enfant de Dieu. Si l'on pêche après avoir cru, il n'y a pas besoin de rétablir la relation, mais la communion avec Dieu. Un enfant désobéissant demeure son enfant, mais ne jouit plus de sa relation. Deuxièmement, le sacrifice pour le péché du sacrificateur oint, ou du peuple tout entier. Le service de Dieu était interrompu, la communion de tout le peuple. C'est pourquoi le sang devait être porté devant le voile, où l'on en faisait aspersion, non pas 1 fois, mais 7 fois. Et sur l'autel des parfums, la victime était brûlée hors du camp. Ainsi seulement pouvait être établi le service du sanctuaire. Troisièmement, le sacrifice pour le péché d'un individu, chef ou simple israélite. La communion personnelle était interrompue. Le sang était placé sur les cornes de l'autel de l'Holocauste et versé au pied de cet autel. La victime elle-même était mangée par le sacrificateur. C'est l'exemple d'un croyant, d'un enfant de Dieu qui a péché, dont la communion avec le Seigneur a été interrompue. Cette communion est rétablie par le service fidèle du Seigneur comme avocat, qui fait agir la parole sur la conscience. Ainsi, le coupable est amené à confesser son péché. Le cas échéant, il réparera envers le prochain le tort causé. Et surtout, il reprendra conscience de la valeur du sacrifice de Christ, propitiation pour nos péchés, toujours efficace devant Dieu. Dans tous les cas, 9 fois de suite, il est expressément déclaré, il lui sera pardonné. La responsabilité est en proportion des privilèges reçus. En effet, si le sacrificateur ou un avait péché ou toute l'assemblée, il fallait apporter un taureau, un chef présentait un bouc, quelqu'un du peuple du pays apportait une chèvre. Dans d'autres cas, si les moyens ne pouvaient atteindre à un agneau, on apportait deux oiseaux ou même un dixième d'un épha de fleurs de farine. Plus la responsabilité est grande parce que l'on a reçu davantage du Seigneur, parce que l'on a fait davantage de progrès dans les choses de Dieu, plus grande est l'appréciation de l'œuvre de Christ que la restauration comporte. Un chef est quelqu'un qui a eu à cœur l'ordre parmi le peuple de Dieu ou qui a été occupé au service du Seigneur. On saisit d'emblée combien sa responsabilité est plus grande que celle d'un simple croyant, mais d'aucune façon cela ne doit être un motif pour un enfant de Dieu de se tenir en arrière lorsqu'il s'agit des intérêts du Seigneur, soit dans le service, soit dans l'assemblée. Si le Seigneur appelle, sa grâce pourvoira et répondra à la responsabilité accrue. Il ne s'agit pas d'avoir préalablement un long repentir. Il ne nous est pas dit que le souverain sacrificateur pendant 6 mois, ou un chef pendant 3 mois, ou quelqu'un du peuple du pays pendant 1 mois, devait pleurer sur ses fautes et ensuite apporter l'offrande. C'est dès que l'on se sait coupable qu'il faut venir avec le sacrifice. Le vrai jugement de soi est produit non en pensant beaucoup à son péché, quoique ce soit à sa place, selon Psaume 51, verset 3, mais en considérant devant Dieu ce qu'il en a coûté à Christ de le prendre sur lui et de l'ôter. Jean nous parle dans son épître de 3 classes de croyants, les enfants, les jeunes gens, les pères. Un père, lorsqu'il a manqué, aura une conscience bien plus profonde de l'œuvre de Christ, accompagnée d'un réel jugement de soi-même, que ce ne pouvait être le cas d'un enfant. Dans le cas du chef ou du simple Israélite, le sacrifice n'était pas brûlé hors du camp, mais mangé par le sacrificateur. Dans un sens, c'est le cœur de Christ prenant notre cause quand nous tombons. Il prend souci de ses brebis. Le sacrificateur n'avait pas commis de péché, mais il s'identifiait complètement avec lui. Citation de J.N. Darby. Christ a fait sien notre péché, le sacrifice et l'aspersion du sang sont des faits accomplis, qui ne seront jamais renouvelés. Mais ils seront le fondement de son service actuel d'intercession, comme notre avocat auprès du Père, 1 Jean 2. Fin de citation. Dans un autre sens, c'est aussi la part, citation de J.N. Darby, des siens comme sacrificateur par la communion du cœur et par la sympathie, de s'identifier avec le péché d'autrui, ou plutôt avec l'œuvre de Christ pour le péché. Nous ne pouvons le faire que dans le caractère de sacrificateur et avec le sentiment de la gravité du péché mis en regard de l'œuvre dont il est l'objet, citation de J.N. Darby. Fin de citation. Cela donne un profond sentiment de ce qu'il en a coûté à Christ d'ôter le péché. Il importe aussi de se souvenir que le péché de mon frère peut se produire chez moi, fruit de ce que je suis moi-même dans la chair, prenant garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Péché spécifique. Lévitique 5, verset 1, nous présente le manquement du témoin. On peut taire un mal qui devrait être mis au jour. Il ne s'agit pas de médire et de raconter les fautes de nos frères, mais il y a des cas particuliers où, ayant entendu la voix d'adjuration, il faut parler. Bien plus fréquent est de manquer de rendre témoignage du bien, de ce que nous avons vu ou su. 1 Pierre 3, verset 15 dit « Soyez toujours prêts à répondre, mais avec douceur et crainte ». À quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. N'avons-nous pas souvent manqué à une telle voie d'adjuration? Nous aurions eu l'occasion d'être en aide à une âme, nous aurions eu la possibilité de rendre témoignage de Christ, mais nous nous sommes retirés en arrière. Si le cas était clair et que nous avons refusé, la parole du Lévitique ne s'applique-t-elle pas aussi à nous? Alors il portera son iniquité. Les versets 2 et 3 présentent les cas d'impureté, de manque de séparation, soit au dehors, soit dans la maison. que de contacts inutiles avec le monde nous souillent en nous rendant là où nous n'avons rien à faire ou en laissant les choses du monde pénétrer dans notre foyer. Amitié dans le monde, association avec les incrédules, de Corinthiens 6, versets 14 à 16.
Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules, car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres, et quel accord de Christ avec Béliar, ou quelle part a le croyant avec l'incrédule, et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit, j'habiterai au milieu d'eux, et j'y marcherai, et je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple.
Livres et revues ou gravures impures, spéculations intellectuelles contraires à la parole de Dieu, souillures de chair et d'esprit, de Corinthiens 7, verset 1.
Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu.
Quand il le sait, alors il est coupable. Tout cela interrompt notre communion avec Dieu. Si parfois nous nous sentons peu enclins à prier, ou ne jouissons pas de la parole, n'est-ce pas que de tels manquements qui nous sont restés cachés contristent le Saint-Esprit? Il cherche à nous en faire prendre conscience, afin qu'ils soient jugés et pardonnés. Le verset 4 condamne les paroles légères. Jurer de faire du mal, c'est-à-dire proférer des menaces que l'on ne met pas à exécution, mieux aurait valu se taire aussi dans l'éducation des enfants, ou promettre de faire du bien et ne pas tenir sa promesse, que ce soit envers des enfants ou envers des frères. La faute est dans la légèreté avant tout. Nous faillissons tous à plusieurs égards. Si quelqu'un ne faillit pas en parole, celui-là est un homme parfait. Que faire dans des cas semblables? Et il arrivera, s'il est coupable en l'un de ces points-là, qu'il confessera ce en quoi il aura péché. C'est l'enseignement de 1 Jean 1, verset 9.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité.
Non pas simplement demander pardon au Seigneur d'avoir médit de quelqu'un ou d'avoir manqué de lui rendre témoignage, ou de nous être associés à l'impureté, mais, devant lui, confesser ce que nous avons fait, en quelque sorte passer notre faute en revue dans sa lumière, ce qui nous amène à en saisir la gravité. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Et il amènera à l'Éternel son sacrifice pour le délit, pour son péché qu'il a commis. Il s'agit de reprendre conscience de la valeur du sacrifice de Christ, de sa mort à la croix, sans laquelle ce péché que nous venons de confesser ne pourrait être pardonné. Lévitique 5, versets 14 à 16 concerne l'infidélité dans les choses saintes. On n'a pas rendu à l'Éternel ce qui lui revenait, mais on s'est approprié de la chose sainte. Pour les Israélites, c'était, en particulier les dîmes, la dixième partie de leur récolte qu'ils n'auraient pas apportée au sanctuaire. En Malachie 3, versets 8 à 12, on voit comment le peuple frustrait Dieu et amenait sur lui sa malédiction. Tandis que s'ils avaient apporté les dîmes au sanctuaire, il y aurait eu de la nourriture dans sa maison, et la bénédiction de l'Éternel aurait reposé sur eux.
Malachie 3, versets 8 à 12. Un homme frustrera-t-il Dieu? Toutefois, vous me frustrez et vous dites, en quoi te frustrons-nous? Dans les dîmes et dans les offrandes élevées, vous êtes chargés de malédictions, et vous me frustrez toujours, vous, la nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et éprouvez-moi par ce moyen, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux, et ne verse pas sur vous la bénédiction, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place.
Et je tenserai en votre faveur celui qui dévore, afin qu'il ne détruise pas pour vous le fruit du sol, et que, pour vous, la vigne ne soit pas stérile dans la campagne, dit l'Éternel des armées. Et toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées.
Combien nous manquons dans ce domaine? Le Seigneur nous donne 24 heures par jour. Plusieurs sont consacrées au sommeil, à la nourriture, au travail. Mais il désire que chaque jour nous prenions un moment à part pour être à ses pieds. Ne nous arrive-t-il pas de le frustrer dans ce domaine et d'employer pour notre distraction, ou même pour plus de travail qu'il n'en faut, le temps qu'il devait être mis de côté pour lui? Et que dire du dimanche, premier jour de la semaine, jour du Seigneur, où, tout particulièrement, il nous appelle à nous souvenir de lui dans sa mort et à veiller une heure avec lui? L'Israélite devait donner la dixième partie de son revenu. Dans le Nouveau Testament, sans qu'il soit question de prescription légale, nous sommes à maintes reprises exhortés à ce sacrifice pour la bienfaisance et pour les serviteurs du Seigneur, Hébreux 13. Ne nous sommes-nous jamais appropriés pour nous-mêmes ce qui lui revenait? Et dans le domaine spirituel, combien n'avons-nous pas reçu de richesses? Savons-nous en faire profiter la maison de Dieu? Apporter dans l'assemblée, soit en louange, soit en exhortation, soit en prière, la dîme qui serait en bénédiction? Dans nos maisons, dans notre travail, y a-t-il pour Dieu la part qui lui revient? Si la bénédiction est retenue dans la famille, dans l'assemblée, dans notre activité ou dans notre service, n'est-ce pas parce que nous avons manqué d'apporter la dîme? Que faire dans de tels cas? Il amènera son sacrifice pour le délit à l'Éternel. Reprendre conscience du sacrifice du Seigneur qui s'est livré lui-même pour nous, qui a tout donné pour nous racheter, puis, ce en quoi il a péché en prenant de la chose sainte, il le restituera et y ajoutera par-dessus un cinquième. Pas seulement regretter de n'avoir pas su mettre à part pour le Seigneur les moments nécessaires, mais dorénavant prendre le temps voulu et même y ajouter un cinquième par-dessus. Et si l'on a trop gardé pour soi de son revenu, quelle qu'en soit l'ampleur, car le Seigneur a plus apprécié la pitié de la veuve que le surplus des riches, ne convient-il pas de lui restituer et le principal et le cinquième par-dessus? Les versets 20 à 26 considèrent enfin les torts faits au prochain, en particulier les choses volées, extorquées. Gardez pour soi ce qui appartient aux autres ou ce qui nous a été confié pour les autres. Dans le domaine matériel, objets volés ou empruntés et pas rendus, travail insuffisamment rétribué. Dans le domaine spirituel où le Seigneur nous a beaucoup confié en vérité de la parole clairement exposée, soit pour les siens, soit pour l'évangélisation, garder égoïstement ce bon dépôt au lieu de le mettre à la portée de ceux auxquels il est destiné. Dans un tel cas, il fallait d'abord rendre l'objet volé ou le dépôt confié, ajouter un cinquième par-dessus et ensuite apporter le sacrifice pour le délit. Combien de personnes se sont rendues malheureuses en ne restituant pas aux autres ce qu'elle s'était approprié pour elle-même. La confession au Seigneur ne suffit pas, même la conscience de son sacrifice, la réparation est demandée. La restauration. Si quelqu'un a péché, avons-nous lu dans le Lévitique, la même expression se trouve en 1 Jean 2 verset 1, suivi des mots, « Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le Juste, et lui est la propitiation pour nos péchés. » Ainsi, le sacrifice est toujours à notre portée. Il ne s'agit pas de tenter d'abord de se corriger pour ensuite venir à lui. Mais il faut venir à lui tel que nous sommes, avec notre péché, le confesser et saisir à nouveau que lui est la propitiation pour nos péchés. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, agneau de Dieu, je viens. Une fois conscient de son péché, l'Israélite devait apporter son offrande. Ce fait même manifestait et sa faute et son appréciation de la valeur du sacrifice. Quelqu'un du peuple s'acheminait-il à travers le camp vers le tabernacle, conduisant une chèvre ou même le sacrificateur oint avec un taureau, tous savaient qu'ils avaient péché. Mais tous savaient aussi qu'ils avaient conscience d'être pourvus d'une offrande qui couvrirait leurs fautes. L'appréciation morale de l'œuvre de Christ varie. Comme nous l'avons vu, l'un apporte une chèvre, un autre seulement des oiseaux, un autre enfin une simple poignée de fleurs de farine. Dans tous les cas, il s'agit d'une offrande parfaite, parlant de Christ qui seul a de la valeur aux yeux de Dieu. Le brigand sur la croix n'aurait pu expliquer ce que Jésus accomplissait, ni la valeur de son sang. Sa foi saisissait bien peu, quoi qu'il lui dise « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. » Mais il avait la conscience d'être là justement, recevant ce que méritaient les choses qu'il avait commises. Quant à Christ, il déclarait « Celui-ci n'a rien fait qui ne se dût faire. » Il avait la certitude de la perfection de celui qui souffrait à ses côtés, perfection que mettait en évidence la poignée de fleurs de farine. Cela suffisait pour que le Seigneur déclare « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Arrivé à l'entrée du tabernacle, le coupable devait, comme dans l'Holocauste, poser sa main sur la tête de la victime. Par ce geste, il déclarait que, si lui, pécheur, ne pouvait être accepté de Dieu, le sacrifice le serait à sa place. Il plaçait son péché sur la tête de l'offrande, elle-même sans défaut, afin qu'il fût expié. Nous avons tous été errants comme des brebis, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Poser sa main sur la tête de la victime, c'est avoir profondément conscience que mon péché a été mis sur Christ. Le coupable égorgeait ensuite lui-même l'animal. Ce n'était pas l'affaire du sacrificateur. C'est dire, voilà ce que je méritais. Pour moi, il a dû mourir. Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Le sang était mis sur les cornes de l'autel des reins. 1 Jean 1, verset 7.
Si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché.
La graisse y brûlait en odeur agréable, même dans le sacrifice de Christ pour le péché, et pas seulement dans l'Holocauste, Dieu a trouvé toute sa satisfaction. Les péchés spécifiques devaient être confessés, les torts réparés. Mais ensuite, à 9 reprises, il est expressément déclaré, et il lui sera pardonné. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Il s'agit de le croire. Une fois le péché confessé, une fois que l'on a repris conscience du prix payé par Christ pour ce péché-là, il ne faut plus s'apesantir sur sa faute, mais l'abandonner. Pénétré de l'amour de Christ et de la grandeur de son sacrifice, ayant retrouvé la joie de notre salut, nous pouvons humblement poursuivre la course, sachant que la même grâce qui nous a restaurés pourra nous garder vigilants et fidèles si nous restons près de lui. Dieu déclare expressément quant à lui-même, « Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Hébreux 10, verset 17. Et quant à nous, le psaume 103 rappelle, autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. Il en est de même pour la scène. Plus d'un jeune s'en tient éloigné parce qu'il est préoccupé de ses manquements et de son indignité. Pourtant, que représente la scène sinon le corps de Christ donné pour nos péchés, le sang de Christ qui nous en purifie? Saisissant par la foi que Dieu nous voit en Christ, qu'il ne se souvient plus de nos péchés ni de nos iniquités, nous pouvons nous approcher sans crainte du mémorial de la mort du Seigneur, sans aucune conscience de péché. Nous ne disons pas sans révérence, car il importe de toujours discerner le corps et le sang du Seigneur. Nous ne sommes pas dignes d'être à sa table, mais lui est digne que nous nous en approchions, et nous pouvons oublier notre indignité et nos fautes dans le sentiment de la grâce qui y a pleinement répondu. Que chacun s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange. Ainsi, c'est-à-dire dans le sentiment qu'il n'y a rien en lui pour Dieu, mais aussi que la grâce, par l'œuvre de Christ, a pourvu à tout ce qu'il était et ce qu'il n'était pas. Que ta mort, ô sainte victime, soit toujours présente à nos yeux. Ton sang a lavé notre crime, seul ton sang nous ouvrit les cieux.